Mesdames, Messieurs, les années 1980 furent particulièrement riches en analyses et en descriptions des deux principaux types de migration internationale séculaire vers la France. D'abord, celle pour le travail, mobilisation de la main-d'œuvre internationale, d'abord européenne, puis ensuite coloniale. À partir des années 1850 jusqu'à la fin des Trois Glorieuses, les populations étaient concentrées par bassin d'emploi et entrées dans le processus de l'intégration individuelle ou familiale par successives générations. La deuxième, que l'on désigne sous le terme de diaspora, dès les premières années de la Révolution française, la diaspora israélite entra en négociation avec les républiques françaises successives pour l'intégration individuelle et collective. Dans les années 1980, également, des chercheurs portèrent notre attention sur l'hybridation de ces deux modèles, notamment en ce qui concernait la mobilisation coloniale algérienne, particulièrement après les années 62. Bien sûr, en 1982, le mouvement des Beurs, les fameux orphelins de la République, se déclenchait pour réclamer une intégration réelle. Ceux qu'on a appelés la deuxième génération, au regard des migrants algériens des années 62 et suivantes, portaient donc sur le devant de la scène publique leur impossibilité d'intégration. Ainsi, sur ces bases, les milieux de la recherche, les milieux politiques furent depuis lors et souvent jusqu'à aujourd'hui mobilisés pour comprendre les subtilités constitutionnelles, les aménagements économiques ou l'histoire récente des ruptures postcoloniales qui permettraient de comprendre ce type de migration et ce grave échec des institutions de la République. Et cependant, les fameux pères disparus, pères des orphelins, vous avez bien compris, fameux pères disparus, développés dans l'invisibilité des initiatives résolues en Europe, dans plusieurs grandes villes, Marseille, Turin, Strasbourg, Bruxelles, par exemple. Il s'agissait de la création de vastes marchés. J'ai eu l'occasion, à partir de 1985, de travailler sur celui de Marseille, situé dans un quartier historique central, Belzunce, en déshérence. Là, 5000 Maghrébins, essentiellement algériens, avaient ouvert 350 boutiques vendant des pièces détachées de voitures contrefaites dans le dispositif industriel piémontais italien et passées par des migrants sénégalais ou maliens, des tissus et des tapis industriels fabriqués en Belgique et aux Pays-Bas, passés par des migrants marocains déjà installés depuis plusieurs dizaines d'années à Bruxelles, des machines électriques pour les travaux ménagers passés d'Allemagne par des populations turques. Bref, un ensemble de mobilité qui substituait Belzunce à l'impossibilité du gouvernement algérien d'assumer les importations de produits d'usage courant nécessaires à sa population. En 1987, sur les premiers résultats de notre enquête, la CEDES de la Caisse des dépôts consignations fit une vaste enquête qui montrait que 700 000 Algériens se déplaçaient cette année-là vers Marseille par bateau ou par avion pour effectuer en fin de semaine les achats nécessaires. Ce grand dispositif, je refusais de l'analyser par une monographie quelque peu exotique, quoi, et décidais d'entrer dans les analyses, les interconnexions de ces multiples mobilités que je signale et des interactions sociales, économiques bien sûr, affectives aussi, indissociablement, auxquelles donnaient lieu. Je proposais donc le paradigme de la mobilité, conjuguant trois niveaux de mobilité, celui de la quotidienneté, celui des mobilités résidentielles occupant des segments de vie, d'histoire de vie, celui des coprésences dans les parcours migratoires effectués par les parents, les grands-parents ou par eux-mêmes parfois. Je m'inscrivais ainsi dans une lignée sociologique française représentée dans les années 1950 par Georges Gurwitz, au début des années 1960 par Pierre Bourdieu dans ses études algériennes, et par William Grossin ensuite, qui postulait que les mobilités de population permettaient de comprendre les régulations de ces populations. À la fin des années 1980 et pendant les premières années 1990, le dispositif commercial de Belzunce s'étiola sous deux effets. Celui des grandes migrations marocaines entre les années 90 et 2000, où 1 200 000 Marocains émigrèrent vers l'Europe. Et celui de la guerre larvée, la guerre civile larvée algérienne et de l'impôt révolutionnaire prélevé sur les commerçants algériens de Belzunce, c'est-à-dire la quasi-totalité d'entre eux. Le nouveau dispositif marocain se développa dans la mobilité le long de routes d'Algésiras à Alicante, Barcelone, Marseille bien sûr, Turin, le canal rhodanien, l'Alsace, la Belgique et jusqu'à Francfort. Il permit de connecter, de réagréger les sociabilités disjointes par la migration coloniale le long de ces parcours, de créer des liens importants entre sédentaires implantés et nouveaux circulants, de telle sorte qu'en 1994, on comptait 140 000 Maghrébins, Marocains essentiellement, effectuant ces grands parcours européens, ce vaste territoire circulatoire européen pour livrer des produits à des centaines, à des milliers de boutiques installées dans les villages et les villes traversées, pour dynamiser des associations culturelles et cultuelles tout le long du parcours. Un autre territoire circulatoire était né en Europe une dizaine d'années auparavant. Il était animé par des Turcs. Il ne concernait qu'une partie de leur parcours entre la Turquie et l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Il concernait, dans le sens du territoire circulatoire marocain, il concernait l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Par contre, il n'était que logistique de transport dans l'ex-Yougoslavie et en Bulgarie. Un troisième territoire circulatoire naquit au début des années 2000, avec les mêmes caractéristiques de superposition territoriale entre les circulants et les sédentaires. Je m'étais évidemment résolument engagé dans cette voie, déjà défrichée dans les années 1960 par Alain Girard, qui traçait une carte des implantations portugaises en région parisienne et de leurs liens avec l'arrière-pays portugais, mais aussi suggéré par Maurice Alvax dans sa magnifique étude de 1939 et 40 sur la Palestine, mettant en évidence la coprésence de populations aux références idéologiques et aux conceptions du territoire différents sur un même espace, l'espace palestinien, et les grandes mobilités qui permettaient de l'alimenter. Je m'inscrivais donc, encore une fois, dans une tradition sociologique française. Le territoire circulatoire qui naissait dans les années 2000, en gras dans le schéma projeté, est celui que nous avons désigné comme euro-méditerranéen. Il a comme particularité d'être discret, j'y reviendrai, et d'autre part, d'être cosmopolite. Au contraire des deux précédents qu'on a désignés comme marocains ou comme turcs. Il trouve son origine dans une volonté délibérée de grandes entreprises transnationales du sud-est asiatique, des entreprises d'électronique, qui veulent créer un système mondial de diffusion de leur production auprès des populations pauvres. Et nous sommes là, dans la branche nord-méditerranéenne de cette mondialisation. Passage par Dubaï, par le Qatar, par différents émirats du Golfe Persique, de ces produits d'entrée de gamme, hors taxes, hors contingentement, offerts ensuite aux populations européennes, balkaniques ou ouest-européennes, dans des conditions d'environ 50 à 60% moins chères que les distributions par les grandes entreprises commerciales ouest-européennes. Par bateau, par avion, toutes sortes de cargos, donc, les marchandises sont envoyées dans les ports d'Odessa, Ukraine, de la mer Noire, où des populations polonaises et ukrainiennes les réceptionnent. De Sotchi, en Russie, où de nombreuses populations des républiques caucasiennes les réceptionnent. À Poti, en Géorgie, où des Azéris, des Afghans et des Géorgiens les réceptionnent. À Trabzon, Trébizonde, dans le nord-est de la Turquie, où des populations afghanes et syriennes les réceptionnent encore. Ensuite, des groupes se dirigent et se mélangent en arrivant dans les ports bulgares de Burgas et de Varna, et en sous-groupes d'une quarantaine de personnes, travaillant parfois dans les champs, parfois vendant les produits qu'ils ont réceptionnés et qu'ils vont encore réceptionner au fur et à mesure qu'ils avanceront sur un nouveau territoire circulatoire cosmopolite, vont créer ce troisième côté du triangle. Comment cela a-t-il été possible ? L'histoire trentenaire, dont récente, de ces pays y répond. À l'époque du Comecon, la Bulgarie et la Syrie étaient des pays frères. Les Syriens envoyaient chaque année environ 2 000 à 3 000 étudiants terminer des formations médicales, entreprendre des formations pharmaceutiques ou d'ingénieurs à Sofia, plutôt que dans la lointaine et froide Moscou. En 1990, à la fin du régime socialiste, 1 200 d'entre eux demeurèrent à Sofia. C'étaient les enfants de Bazari, d'Alep et de Damas, qui ouvrirent dans un quartier central de Sofia, qui avait été relativement délaissé par les autorités, qui construisaient des logements sociaux dans les périphéries de Sofia, dont 1 200 d'entre eux achetèrent des maisons et de 1, 2 ou 3 étages, restaurèrent les rez-de-chaussée en atelier ou en commerce, bijouterie, en liaison avec Alep ou Damas, bien sûr, vente de vêtements fabriqués dans les grandes fabriques internationales d'Alep à l'époque, vente des premiers produits électroniques passés du Golfe Persique par des Syriens. Et ils habitèrent dans les premiers étages et restaurèrent les deuxièmes et parfois troisième étage. Quand, entre 1995 et 1999, des milieux cupides tentèrent, et avaient succès, d'expulser des populations bulgares des appartements sociaux les plus récents des périphéries de Sofia, c'est les Syriens en centre-ville qui les accueillirent dans des conditions avantageuses. La construction sociale de l'étranger arabe moyen-oriental, dès lors dans les Balkans, fut extrêmement positive, à l'inverse de la construction sociale de l'arabe maghrébin en vigueur dans les nations ouest européennes. Mais aussi, au début des années 2000, des milliers, environ 15 à 20 000 migrants afghans traversèrent la mer Noire et la Bulgarie pour se rendre au Kosovo, aider les populations albanophones ou les Albanais eux-mêmes à reconquérir, disent-ils, ou fonder la République kosovarde. Plusieurs milliers d'entre eux demeurèrent ensuite au Kosovo et en Albanie. En Albanie, ils se joignirent aux habitants qui avaient une tradition multiséculaire de migration vers les Pouilles et les Abruzzes étaient italiennes. Ainsi, le nouveau territoire était tracé, avec au cœur des populations qui se recomposaient à partir des ports que je vous ai signalés, qui se recomposaient en Bulgarie, avec au cœur des Syriens et des Afghans. En 2015, l'année dernière, par conséquent, lors de l'Exode, la première partie, la plus grande partie, la plus démonstrative de l'Exode fut celle concernant les itinéraires des Syriens, Afghans et Irakiens par la Turquie et par la Grèce, par la Macédoine du Sud en Nord, la Serbie et la Hongrie. Le chaos dont on a tous entendu parler. Ensuite, un ordre relatif, une mise en circulation fut permise à partir de l'Autriche, en Allemagne évidemment, en Belgique et aux Pays-Bas. On retrouvait là la fonction essentielle des territoires circulatoires dont je vous ai parlé, une fonction buvard entre circulants et populations sédentarisées qui permettait aux uns et aux autres soit de s'arrêter, soit de se mettre en circulation à travers plusieurs nations européennes. Nous avons pu, très récemment, au mois de juillet et au mois de septembre, avec une université bulgare et deux universités italiennes, tenter une évaluation des passages de réfugiés par ce troisième territoire circulatoire, ce troisième côté du triangle, entrant depuis Trabzon et Poti, essentiellement entrant en Bulgarie par Varna et Burgas, 210 000 Syriens et Afghans. « 80 000 vont rester en Bulgarie, soit pour remplacer les travailleurs bulgares partis en Europe de l'Ouest pour travailler, soit évidemment pour s'associer aux Syriens désormais présents dans les principales villes. Les 130 000 qui quittèrent la Bulgarie pour traverser d'est en ouest la Macédoine et se rendre à Tetovo, puis dans le Kosovo, le Monténégro et l'Albanie, 80 000 d'entre eux encore demeurèrent là, dans ces pays. Excusez-moi, je regarde mes sources pour ne pas me tromper sur le total, quoi. 60 000 abordèrent donc les ports de la mer Adriatique pour se rendre dans les Pouilles, Brindisi jusqu'à Tarente, pour se rendre autour de l'Aquila, dans les Abruzzes et autour des collines turinoises dans le Piémont italien, et rejoindre, munis généralement. On se pose toujours la question, mais comment passaient-ils les frontières ? Ils étaient munis, soit en Bulgarie, soit en Italie, de visas touristiques qui leur permettaient des séjours, qui leur permettent des entrées, des séjours de 3 à 6 mois, bien sûr, quoi. Comme les transmigrants qui effectuent ces allers-retours dont je vous ai parlé dans les territoires circulatoires. Environ 20 000 se joignirent à partir du Piémont italien au territoire circulatoire marocain. 5 000 pour descendre vers Algeciras sur le Levant espagnol. 15 000 pour monter vers les nations européennes nordiques, dont évidemment quelques milliers vers Calais. Voici donc l'histoire autre de l'héritage de ces fameux pères disparus dans les années 80. Je vous remercie.